Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Point d'Orgue. Bienvenue sur Radio Présence pour votre rendez-vous de musique liturgique. Alors on va continuer, si vous le voulez bien, ce voyage extraordinaire en compagnie de Gabriel Fauré pour écouter, apprendre des choses sur cette œuvre extraordinaire qui est son œuvre principale, la plus connue, celle que, à laquelle tout le monde se référence, Ravel à son Boléro, Bach, sa messe en si, et donc Fauré, cette extraordinaire page qu'est le Requiem. Alors, aujourd'hui, on arrive à la fin de ce Requiem, de ces morceaux que nous avons pu écouter les uns après les autres. Ce que je vais faire, c'est que comme nous allons terminer de parler du Requiem, je vais récapituler quelque chose qui a été dit avant pour qu'on ait toujours cet esprit de cohésion de l'œuvre. Alors, j'ai pris mon piano à côté de moi, de sorte à vous montrer certaines choses et de faire en sorte que nous puissions entendre des concordances entre les différents mouvements et de réavoir une œuvre toute unie. Et bien entendu, par la suite, je vous invite à le réécouter en entier. Alors le mieux pour l'entendre dans les conditions optimales, je vous invite à aller au concert de la Scola Cantorum et de la Chambre Symphonique de Toulouse, dirigé par Charles Dubert. Ça sera vendredi et samedi à la Basilique Saint-Sernin. À 20h30. Donc prenez vos places sur le site de la Scola Cantorum. Oui, je fais un petit peu de pub, mais après tout, si je vous parle de tout ça, c'est aussi parce que on l'a travaillé et donc on peut essayer d'avoir cette réflexion-là parce qu'on travaille, parce qu'on entre dans l'intimité de l'œuvre. Et vous, peut-être que ça vous permettra de l'entendre d'une oreille nouvelle. Alors maintenant, place à la musique elle-même. D'abord, on va analyser comme d'habitude et ensuite on va écouter. Alors aujourd'hui, je vous propose un morceau, un sacré morceau même, qui est le Liberame. Alors comme d'habitude, je vais vous dire ce qui se dit dans ce morceau-là, et ensuite on va l'analyser d'un point de vue musical. Alors, délivre-moi Seigneur de la mort éternelle, en ce jour redoutable où le ciel et la terre sont ébranlés, quand tu viendras éprouver le monde par le feu. Voici que je tremble, et que j'ai peur devant le jugement qui approche, et la colère qui doit venir. Alors là, on va rentrer dans une deuxième phase, qui est le dies irae. Ce jour-là sera jour de colère, jour de calamité et de misère, jour mémorable et très amer, quand tu viendras éprouver le monde par le feu. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière brille à jamais sur eux. Et là, on reprend, délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle en ce jour, voilà. On retombe un petit peu sur nos pattes. Donc, deux moments. Un moment où on va supplier le Seigneur de nous délivrer des affres de la mort. Et de l'autre côté, une référence à ce jour de misère qui est un petit peu le jugement dernier. Et il y a cette colère de Dieu qui s'abat, celle qu'on a pu croiser dans l'Ancien Testament. Donc vraiment un texte extrêmement fort, extrêmement puissant. Et vous allez voir là aussi que le service de la musique est assez incroyable sur ce texte-là. Alors tout d'abord, le Liberame, qu'est-ce que c'est ? Donc outre le texte, vous avez bien compris, il se chante à un moment très précis dans la messe, c'est lors du dernier adieu. C'est-à-dire qu'on va faire des prières sur le corps, on va l'encenser. Et le bénir avec l'eau, et c'est vraiment le moment où on le laisse partir, et c'est pour ça que le texte est aussi fort, on prie, on espère que le mal n'atteigne pas la vie éternelle du défunt. Alors, ce morceau, il est extraordinaire à plus d'un titre. Déjà, d'un point de vue musical, il est très beau, vous allez pouvoir l'entendre, mais il est bourré de références. Alors, je prends la partition, sous les yeux, et il y a déjà beaucoup de choses à dire. Donc c'est là où je vais me rapprocher de mon piano. Alors, déjà, il commence de manière assez incroyable. Vous avez l'orchestre qui va faire un ostinato. Ostinato, en italien, ça veut dire obstiné. Et quand on dit que quelque chose est ostinato, en musique, ça veut dire qui se répète sans cesse. Et là, ce qui se répète sans cesse, c'est une marche funèbre, une sorte de marche inexorable vers la mort. Alors, je vais vous montrer à peu près ce qu'elle fait, comme ça vous allez pouvoir être attentif. Donc, je vous joue un petit extrait.
«
Je voulais jouer un petit peu vite, hein, bien sûr, mais vous voyez bien ce qui se passe. Vous avez quelque chose de très inexorable dans le rythme. Tim, tam, tam, tim, tam, tam, tim. Donc vraiment comme si on allait vers la mort d'un pas inexorable. C'est vraiment le type même de la marche funèbre. C'est binaire. Binaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous sentez le tempo en deux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et donc ça a longtemps été assimilé, pardon, à tout ce qui est humain. Et au milieu de l'œuvre, je vous ai dit qu'on allait retrouver le dies irae, là c'est ternaire. Ternaire, c'est quand on sent le son par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dies irae. Vous allez l'entendre comme ça. Et là, c'est toute cette dichotomie qui va exister entre le côté binaire, puis le côté ternaire, qui montre la colère de Dieu, colère divine. Et ensuite, on retourne dans le binaire pour le libérer. Également, dans la façon dont c'est chanté, vous allez voir, c'est extraordinaire. On commence avec un solo de baryton. Donc, vous savez, hein, ce que je vous ai dit, les voix graves, vraiment tout ce qui a rapport avec la dureté, la gravité et les enfers. Et donc là, un baryton solo, donc un homme seul, demande d'être délivré de la mort. Donc c'est comme si on était seul face à son destin. Ensuite, vous avez les chœurs qui rentrent progressivement, de manière un petit peu inquiétante. Très mince, factusum ego. Et alors là, vous avez quelque chose de très éthéré, un peu de lyrisme triste qui arrive. Et vous avez jusqu'à une dimension qui arrive très très forte, le dies irae, donc là, en ternaire, beaucoup plus enlevé, qui est annoncé d'ailleurs par les instruments à cuivre, un peu comme les trompettes de Jéricho, qui résonnent. Et là, on a vraiment le côté la colère de Dieu, jour de calamité et de misère. Là, on a quelque chose de totalement éclatant et d'assez terrifiant. Et ensuite, Fauré fait quelque chose d'extraordinaire quand il évoque la lumière. L'orchestre rétrécit et on reprend le thème du Liberame. Donc ce qu'a chanté le baryton solo est repris par toutes les voix à l'unisson et elle chante le même thème.
Liberame Domine.
Et il y a cette espèce d'unisson qui fait que les personnes s'effacent et on retrouve cet aspect de solitude. Et la solitude nous est confirmée à la fin du morceau par la reprise du baryton, qui reprend un petit peu le même thème, mais qui le change un petit peu, et qui termine de façon totalement dramatique avec les échos de cette marche funèbre qui se termine en ré mineur. Je vous avais dit que donc, c'était la tonalité principale qui évoque beaucoup la mort. Et on entend simplement la fin. Alors certes, le chœur reprend le dernier « Liberame Domine »,« Libère-moi Seigneur », mais de façon très, très légère, très sourde, et vous avez l'orchestre qui marque le pas de cette marche funèbre. Donc je vous invite à porter attention à tout ce que j'ai pu vous dire. Donc voilà, cet aspect binaire, cet aspect de marche funèbre, cet aspect d'unisson pour montrer la solitude du mort face aux affres, et cette colère de Dieu qui éclate en plein milieu pour un retour extrêmement intimiste et finalement terminé seul, face à son destin, le Liberame de Gabriel Fauré. Voilà, ça se termine de façon très lourde, très pesante, ce rythme pesant de la marche funèbre qui est vraiment dur, inexorable, si terrible, et vraiment on se dit que là il n'y a pas d'échappatoire possible. Il y a quelque chose de très pessimiste dans ce mouvement qui est magnifique. L'entrée des chœurs pourrait laisser passer un petit peu d'espoir. C'est l'un des passages les plus sombres de ce requiem, je pense même le plus sombre, qui est totalement mis en exergue par ce sanctus très terrible, pardon, le sanctus, je vous dis n'importe quoi, ce dies irae, qui est vraiment vraiment très très fort, très puissant, très acide et très terrible. Et donc on est dans cette lourdeur totale qui est là et totalement rendue plus forte par ce baryton solo. On est totalement à l'opposé. Souvenez-vous de ce qu'on avait écouté avec le pied Yezu, quelque chose de beaucoup plus aérien. Et de manière générale, tout ce que j'ai pu vous dire sur le Requiem, qui était que c'était une œuvre douce comme moi, hein, c'est ce qu'avait dit Gabriel Fauré, vraiment il y a quelque chose de très rassurant, très réconfortant, mis à part l'introïte très solennel, mais il y a toujours cette part de confiance. Là, dans ce morceau, nulle confiance. Il suit le même schéma que les autres morceaux, c'est-à-dire qu'il commence piano, il y a un moment qui est fortissimo, donc très fort, et il termine de nouveau piano. Donc il suit le schéma habituel, mais cette fois-ci, avec beaucoup plus de terreur, calamitatis, voilà, c'est ce genre de colère. On peut un peu repenser, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces références de l'offertoire, où là aussi il y avait des phrases terribles, des mots terribles, et la musique le soulignait bien, mais c'est ce passage-là qui est vraiment le plus lourd. Et pourquoi est-ce que j'en remets une couche sur la dureté de ce passage? C'est tout simplement pour vous faire l'effet de contraste, qui est parfaitement réussi chez Fauré. parce que le morceau qui suit, c'est le In Paradisum. Et alors là, on est ces deux salles, deux ambiances. Autant on a terminé de manière très lourde avec cette marche vers la mort, autant là, on est dans quelque chose de totalement différent, et je vais vous montrer pourquoi. Déjà, on va voir les paroles. Que les anges te conduisent au paradis, que les saints martyrs t'y accueillent et te guident jusqu'à la sainte cité de Jérusalem. Et ensuite, on a le fameux Chorus Angelorum, que le cœur des anges te reçoive et qu'avec Lazare, jadis si pauvre, tu connaisses le repos éternel. Alors ça, ce sont des paroles sublimes. Pourquoi ? Parce que la référence à Lazare montre en fait tout l'optimisme qui va arriver. Lazare, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était l'ami de Jésus que Jésus a ressuscité. Et donc, quand on évoque Lazare, on évoque la résurrection. Et c'est ça, le véritable mystère de ce In Paradisum, qui là, prend tout son sens également avec la musique. Alors, je vais vous montrer pourquoi, avec le piano et également l'instrumentation. C'est assez clair. Déjà, là, vous aviez beaucoup de lourdeur. L'ostinato a été marqué par le pizzicato de certaines pizzicato, c'est-à-dire les cordes pincées de certaines cordes. Le timbre y est très lourd, très, très profond. Et là, tout d'un coup, on change d'ambiance. On avait donc cet ostinato, je vous le joue, hop, ici. C'est avec cette tonalité mineure, souvenez-vous ce que je vous avais dit sur les tonalités, quelque chose de très lourd. Et là, dès qu'on commence, ça fait... C'est même à l'octave au-dessus, donc encore plus lumineux. Et là, c'est d'autant plus extraordinaire que c'est l'orgue qui joue. L'orgue qui symbolise cette verticalité, cette montée vers le ciel, ces jeux aigus qui nous permettent d'aller dans la lumière. Et alors qu'on sortait cette marche funèbre, c'est d'autant plus fort que ce In Paradisum est chanté par les sopranes. Il y a un espèce de cœur d'ange, c'est pour ça d'ailleurs que c'est le Chorus Angelorum est prononcé ici, et qu'il y a cette volonté de mettre en avant les voix aiguës. Souvent d'ailleurs, c'était les enfants qui chantaient ce In Paradisum. Alors certes, les autres choristes vont se mêler à ce cœur des anges, mais vous avez toujours cette tonalité très lumineuse. Et ça, c'est magique. On va se retrouver dans quelque chose complètement hors du temps, complètement éthéré. Et la forêt fait le tour de force de nous apaiser et de nous dire finalement, voilà, le défunt part. Autant le Liberame était le dernier adieu au moment de gravité où on espère toute la foi, tout le mystère de la foi est là, on espère qu'il sera délivré des affres de la mort éternelle. Et là, quand le corps part, in paradisum, eh bien, mon ami, on se revoit au paradis. C'est ça qui est extraordinaire et la musique le dit avec une incroyable douceur et une incroyable confiance. C'est pour cela que je vous invite à l'écouter avec cette oreille attentive et pure. Donc on écoute maintenant le In Paradisum de Gabriel Fauré. Thank you. Et voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs, comment se termine cette incroyable œuvre de Gabriel Fauré. La boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire, de la plus belle des manières, c'est-à-dire que on termine sur le ré majeur. On avait commencé de manière incroyable. Alors, c'est là aussi où il y a un retour des choses. On commence avec cet accord, souvenez-vous. Mineur, Requiem aeternam. Et on termine sur les mêmes paroles, Requiem, et cette fois-ci en majeur. Et donc là, on a compris que la bonne nouvelle est là, les portes du paradis se sont ouvertes. C'est quand même extraordinaire d'un point de vue musical d'arriver à avoir cette unité et de pouvoir avoir un tel optimisme et de le rendre aussi bien par le biais de la musique. C'est encore une fois un tour de force dont sont capables les plus grands compositeurs. Et là, on est face à un chef-d'œuvre. Moi, c'est ce que je pense et j'espère que vous le pensez également. Donc, vous voyez cette œuvre extraordinaire d'une grande douceur, d'une grande confiance envers cette vie future. Donc, je vous rappelle que Gabriel Fauré, d'après ce que l'on sait, n'était pas croyant. Mais en vérité, quand on entend ce type de musique-là, bon, on sait que Gabriel Fauré avait certes une grande habitude. Enfant, il servait la messe. Plus tard, il a été maître de chapelle à la Madeleine. Et donc, effectivement, il connaissait son affaire. Mais on ne compose pas ce genre d'œuvre sans avoir un petit peu d'inspiration par l'Esprit Saint. C'est ce que je pense. Je pense que je ne suis pas le seul, mais il y a un peu trop de génie pour qu'il soit tout seul quand c'est sa main a écrit ces lignes. Donc voilà pour cette œuvre extraordinaire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter des choses dessus que moi à vous les dire. Ça a été vraiment un grand plaisir d'approfondir cette œuvre pour vous. Je vous rappelle que si vous voulez l'entendre en vrai avec grand orgue, chœur, double chœur, hein, il y aura une maîtrise et un chœur d'adulte, ainsi que un orchestre. Vous pouvez vous rendre à la Basilique Saint-Sernin vendredi et samedi à 20h30. Vous allez sur le site de la Scola de Saint-Sernin, vous prenez vos places. C'est pas très cher en plus, donc on vous invite à diffuser un maximum parce que c'est une magnifique pièce qui en plus trouve toute sa place dans le carême. Ensuite, vous aurez la magnifique symphonie pour orgue de Saint-Saëns avec orchestre juste avant le dimanche de l'Étarré. Là aussi, je pense que c'est tout un programme, un beau symbole. Ça sera, je pense, un beau concert. J'espère vous y retrouver. Cela me fera plaisir. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée, et puis pour la prochaine fois, on ira dans de nouvelles directions, toujours en musique sacrée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.